Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Il est le pape du pop, il est le pape du pop. Que demande le pop, que demande le pop. Il est le pape du pop, il est le pape du pop.
Bien le bonjour messieurs, dames et bienvenue pour une nouvelle émission de Culture et vous, l'émission de pop culture de Transistor. Il y a peu, le pape François nous a quittés. Véritable symbole pour les uns, simple homme d'église pour les autres, le pape François, aimé ou pas, était tout de même connu dans le monde entier. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de moi aussi vous parler d'un pape. Mais attention, aucun lien avec la religion, non. Moi, je vais vous parler de celui qu'on surnomme le pape du pop art, Andy Warhol. Iconarty par excellence et personnage aussi connu que mystérieux, il est à lui seul le symbole du mouvement artistique du pop art. Peintre, dessinateur, photographe, producteur, réalisateur, écrivain, nombreuses sont les casquettes que Warhol a su poser avec succès sur ses perruques platines. Symbole de l'art underground et branché du New York des années 60, il aura réussi à plonger le monde entier dans l'univers du pop art dont il était déclaré l'empereur. Ses portraits de Marilyn Monroe et ses sérigraphies de boîtes de soupe Campbell sont aujourd'hui encore des images qui sont ancrées dans la mémoire collective. Tout comme sa fabrique et son envie d'exposer au monde les dérives de la société de consommation de l'époque. Andy Warhol, artiste aussi mystérieux que fascinant, a réussi à traverser les époques et les frontières, et continue aujourd'hui d'influencer les nouvelles générations de créateurs en tout genre. De Banksy à la publicité, l'œuvre de Warhol dure et perdure. Et pourtant, peu de temps après sa mort, la question de la continuité de sa popularité se posait, comme en 1990 dans le 20h de France 2.
Andy Warhol à Paris, je veux parler de son œuvre, bien sûr, il y avait été très peu exposé de son vivant. On le célèbre maintenant comme l'un des très grands du XXe siècle. Deux expos, l'une à Paris, à Pompidou, l'autre à Lyon, à l'Espace d'Art Contemporain. C'est bien l'ambiguïté de cet artiste américain dont personne ne peut dire aujourd'hui s'il restera dans l'histoire de l'art ou s'il n'est qu'un phénomène de mode.
Alors qu'Hervé Claude se rassure, le phénomène de mode a encore de beaux jours devant lui. Il y a tout juste 2 ans, la toile de Warhol, Shot Sage Blue Marilyn, a été vendue en 4 minutes à 195 millions de dollars, faisant d'elle l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue dans une vente aux enchères. A l'instar de sa consœur, la peintre mexicaine Frida Kahlo, Andy Warhol est lui-même devenu un produit de consommation. Celui qui voulait être une machine et produire de l'art en masse comme dans une usine a réussi son pari. Déco, vêtements, affiches, coloriage, les œuvres de Warhol se retrouvent partout. De l'espace culturel de Landerneau jusqu'au MoMA de New York, tout le monde peut avoir sa dose de Warhol. Alors comment ce petit bonhomme chétif et malade venu de Pennsylvanie a réussi à conquérir le monde et à devenir une icône mondiale de l'art? On tente de répondre à toutes ces questions dès maintenant, direction les États-Unis du siècle dernier pour une plongée dans le fabuleux pop art d'Andy Warhol. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culture et vous. Andy Warhol, pas encore appelé Andy Warhol, est né le 6 août 1928 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Ses parents, Ondrej et Julia, originaires de Slovaquie, ont migré chez l'oncle Sam quelques années plus tôt. Ouvrier dans les mines de charbon, le père d'Andy travaille beaucoup et laisse sa mère s'occuper à plein temps de ses 3 garçons. La famille Warhol, très chrétienne, fait partie des membres de l'église grecque-catholique ruthène et fréquente l'église byzantine du quartier. Ruthène, c'est le nom que l'on donne à la population originaire des Carpates dont fait partie la famille Warhol. Et c'est aussi le cas pour beaucoup de leurs voisins. Et oui, si la famille a choisi ce quartier près de Pittsburgh, c'est déjà par manque d'argent, mais surtout pour se retrouver avec d'autres immigrés de Slovaquie. Andy Warhol, le Benjamin de la fratrie, grandit donc au milieu des usines de Pittsburgh, ville industrielle par excellence. Charbon, acier, la ville façonne l'Amérique de demain. Enfin, quand on dit la ville, on parle surtout des ouvriers, qui, comme le père d'Andy, s'échinent tous les jours au travail pendant que le reste de la population aisée découvre les joies de la consommation et de la belle vie. Mais à la pauvreté du quotidien, Julia Warhol répond par la richesse de l'esprit. Très à cheval sur la religion et ses règles, la mère d'Andy Warhol ne rate aucune messe du dimanche et embarque toute sa famille dans sa vie très pieuse. Des années plus tard, Andy Warhol affirmera d'ailleurs que la religion et ses icônes auront eu une influence directe sur son travail et le style de ses œuvres. Mais revenons à son enfance. Petit, chétif et pâle, Andy Warhol est un enfant qui est souvent moqué, mis de côté et même battu par certains de ses camarades. En plus de la simple envie de vouloir protéger son petit, la mère d'Andy Warhol n'a parfois pas le choix que de le garder à la maison. À 7 ans, le jeune garçon est victime d'une infection qui se transforme en chorée de Sydenham. Cette maladie du système nerveux, qu'on appelle aussi la danse de Saint-Guy, provoque chez lui des mouvements saccadés et involontaires aussi douloureux qu'épuisants. Il doit alors rester alité chez lui pendant 2 mois. Radio, dessin, lecture, Andy Warhol se nourrit de tout ce qui peut venir à lui. Plus tard, c'est dans la télévision et surtout le cinéma que l'enfant trouvera un refuge, mais surtout sa porte de sortie vers un autre monde. Like to take a cement fix, biggest standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, 2 new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. De retour sur Transistor, vous écoutez Culture et vous, l'émission pleine de pop culture qui vous raconte aujourd'hui l'histoire du maître du pop art, Andy Warhol. Avant l'intermède musical interprété par David Bowie, nous étions en train de découvrir l'enfance monotone et maladive du petit Andy Warhol. Nous sommes en 1942 et le jeune adolescent de Pittsburgh perd son père des suites d'une maladie liée à la vésicule biliaire. À 14 ans, Andy Warhol voit alors sa mère prendre les rênes familiales. Celle qui couve plus que de raison son petit dernier se voit obligée de gérer les finances de la famille. Entre ses petits boulots d'aide-soignante, elle se lance également dans la création de petites sculptures et autres décos qu'elle ira vendre au porte-à-porte. Parmi ses œuvres, de jolies fausses fleurs en papier glissées dans des vases de soupe Campbell.
Mais non ! Mais hasard de dingue !
Et oui, hasard de dingue que le fiston se soit servi de ces mêmes pots de soupe Campbell pour devenir le pape du pop art.
La pop culture, c'est sur Transistor avec Audrey.
Depuis toujours, les parents d'Andy Warhol, avec l'accord de ses autres frères, avaient mis de l'argent de côté afin d'assurer à celui-ci la possibilité de faire des études. Car si les deux autres garçons étaient bien partis pour prendre eux aussi le chemin des usines, pour le dernier, ce n'était pas gagné. Lui se rêve plutôt danseur de claquettes, même s'il n'a jamais pris un seul cours de danse, mais ça, c'est grâce à la magie du cinéma. Passionné de 7e art et de dessin, Andy Warhol trouve dans les films d'Hollywood un moyen de s'évader et de mettre des paillettes dans sa vie. Les stars féminines le fascinent. Greta Garbo, Liz Taylor ou Judy Garland font partie des actrices qu'il vénère et dont il collectionne les photos. En sortant du lycée en 1945, il intègre le Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh. 4 ans plus tard, le jeune diplômé fait ses valises et part directement pour la ville qui ne dort jamais, New York. Mais si l'amour de l'art et la créativité sont bien là, ce ne sont pas elles qui nourrissent le jeune provincial. Mais ça, Andy Warhol le sait. Et il est bien décidé à se faire rapidement un nom et les dollars qui vont avec. Même s'il doit d'abord se loger dans des colocations miteuses et bondées dans des quartiers minables, Andy Warhol ne lâche rien et se lance à la conquête de la grosse pomme. L'un de ses premiers rendez-vous est avec la rédactrice en chef du Harper Bazaar, véritable institution dans le milieu des magazines de mode. Sur cet entretien, Warhol aime raconter que quand il a ouvert son carnet à dessin pour le présenter à la rédactrice, un énorme cafard en est sorti. C'est alors que celle-ci aurait eu pitié de lui et qu'elle lui aurait confié son premier contrat. Un faux, un tox, avec Warhol, difficile de démêler le vrai du faux, tant celui-ci aime brouiller les pistes, notamment sur son enfance et ses débuts dans la publicité. Parce que oui, Andy Warhol a commencé à travailler en tant que dessinateur de publicité et décorateur de vitrines de grands magasins. Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, les grands noms de la presse commencent à s'échanger le nom du jeune Warhol. Et déjà à l'époque, on remarque ce style et on observe dans ses dessins de la répétition, de l'accumulation et une fascination pour les images emblématiques. Magazines de mode, vitrines de magasins, affiches, couvertures de livres, Andrew Warhol, devenu Andy Warhol, s'est rapidement fait une place dans cet univers impitoyable et commence à connaître le succès. Sa mère, qu'il a rejoint à New York, habite avec lui et tous deux créent leur petit univers. Le fils à maman, comme il le dit lui-même, est toujours couvé et surprotégé par Julia, qui restera avec lui jusqu'à sa mort en 1972. Plus qu'une assistante, c'est une véritable source d'inspiration pour Warhol, qui lui demande même d'assurer la calligraphie sur beaucoup de ses dessins. Son talent et sa créativité paient. En quelques années, Andy Warhol est l'un des dessinateurs les plus courus et les mieux payés de New York. Et si pour le moment Warhol reste un publicitaire proche de l'art, il deviendra bientôt un artiste proche de la publicité.
Une émission de culture populaire, c'est Culture et vous sur Transistor.
Nous sommes au début des années 60 et à l'époque, les artistes en vogue font partie du mouvement de l'expressionnisme abstrait. Des toiles immenses sur lesquelles les peintres expriment leurs émotions. On casse les codes établis, on impose une nouvelle façon de créer, de voir et de ressentir les œuvres. En tête de file de ce mouvement, on retrouve notamment Jackson Pollock ou William de Kooning. Mais si cet art abstrait est en plein boom outre-Atlantique, une autre mouvance commence à pointer le bout de son nez. C'est flashy, c'est punchy et iconique, c'est ce qu'on va appeler le pop art. Alors le pop art, c'est quoi ? Eh bien, le pop art ou populaire art, c'est un mouvement artistique qui met en scène de façon détournée et souvent ironique les objets et images du quotidien. Billets de banque, toilettes, bouteilles de coca, tout peut se transformer en œuvre d'art. Alors le pop art, comme on le connaît aujourd'hui, est pour le coup typiquement américain. Mais à la base, il nous vient de cette bonne vieille Europe. Et oui, dans les années 50, le fameux American Way of Life traverse l'océan et vient apporter au vieux continent les gadgets d'une vie parfaite. Il faut rappeler qu'à cette époque, nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est ruinée et clairement affaiblie, à l'inverse d'une Amérique qui, elle, pète le feu. Alors petit à petit, les Européens vont voir débarquer dans leur quotidien un peu de ce rêve américain. Les chewing-gums, les bandes dessinées, le coca, les cigarettes... Sans oublier, toute la magie d'Hollywood va vite faire partie de notre décor. Loisirs, bien-être, confort moderne et surtout consommation, les Européens découvrent et adhèrent aux nouvelles valeurs de l'oncle Sam. Et c'est en Angleterre, au milieu des années 50, que les premiers artistes du pop art à l'image de Richard Hamilton vont se saisir de cette influence et lancer les bases du mouvement. Il faudra ensuite attendre quelques années pour que celui-ci arrive aux États-Unis et connaisse un succès mondial. Début des années 60, Andy Warhol est donc un publicitaire récompensé et reconnu de tous, mais lui veut fréquenter les grands artistes et être considéré en tant que tel. Alors, il cherche l'inspiration, le truc qui lui permettra de sortir du lot. Il sent bien que quelque chose se trame, mais il ne sait pas encore quoi. À la recherche d'un style distinctif, il part d'abord sur des représentations inspirées des comics et des BD, comme avec Popeye ou Superman. Mais au même moment, un autre peintre et dessinateur, Roy Lichtenstein, a lui aussi bien compris l'influence et le pouvoir des bandes dessinées. En 1961, celui-ci est invité à exposer dans la célèbre galerie Leo Castelli à New York. Énorme carton, il n'a même pas encore exposé ses œuvres qu'elles ont déjà toutes été rachetées par des collectionneurs. Sa carrière et son succès sont lancés. Deux mois après cette expo, Warhol vient lui aussi proposer son travail à cette même galerie. Mais c'est un échec. Warhol repart bredouille, mais il est toujours bien décidé à avoir son quart d'heure de gloire. En 1962, Warhol va découvrir une technique d'impression qui va changer sa vie et le cours de l'art. Cette technique, c'est la sérigraphie. Alors pour faire simple, la sérigraphie, c'est une méthode d'impression qui consiste à appliquer de la peinture ou de l'encre sur une surface à travers un écran de toile. La toile ne laisse passer l'encre qu'à certains endroits, là où l'image va s'imprimer. Comme l'écran peut être utilisé plusieurs fois, on peut donc reproduire l'image autant de fois que l'on veut et en faire des versions différentes à chaque fois. Et oui, c'est assez magique et surtout diablement efficace. Andy Warhol a trouvé la forme, il va maintenant s'attaquer au fond. Et pour ça, il ne va pas aller chercher très loin. L'essence même du mouvement pop art, c'est de prendre des objets ou des images du quotidien pour les détourner. Andy Warhol va donc sublimer son quotidien à lui, à commencer par les fameuses canettes de soupe Campbell. Si en France on les connaît via Warhol, justement dans les années 50 et encore aujourd'hui, elles sont très connues aux États-Unis et présentes dans énormément de cuisines de la classe populaire dont Andy Warhol fait partie. En 1962, l'artiste va produire grâce à la sérigraphie une œuvre composée de 32 toiles où sont représentées des canettes de soupe Campbell rouges et blanches. Ces tableaux, il va pouvoir les exposer à la Staple Gallery d'Eleanor Ward à New York. Le monde va alors découvrir ses nouvelles œuvres, toujours créées via le système de sérigraphie et surtout très inspirées de la société de surconsommation. On y retrouvera d'ailleurs certains de ses tableaux les plus connus aujourd'hui, comme les 100 billets de 1$, les 100 bouteilles de Coca-Cola, mais également un des portraits de la vedette du cinéma hollywoodien de l'époque, le Gold Marilyn, en hommage direct à Marilyn Monroe. Sur ce tableau, comme sur les autres portraits de la star qu'il fera par la suite, on voit le visage de la pin-up en cadre serré, yeux de biche et lèvres dessinées. Cette œuvre de 1962 est devenue au fil des années l'une des représentations les plus emblématiques d'Andy Warhol, mais aussi de l'actrice elle-même. Mais cette photo, ce n'est pas Warhol qui l'a prise, c'est une photo tirée de la promotion du film de l'actrice Niagara, sorti en 1953. Et pour certains, cela pose un vrai problème. Et oui, après tout, Marilyn, la bouteille de coca, le billet de banque, Andy Warhol ne crée pas une image, il utilise celle qui existe déjà. Ses détracteurs fustigent son style et ce qu'il considère comme de la simple récupération. Mais Warhol s'en moque, après tout, en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de lui.
$6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing? It's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He wore shoes and a big straw hat.
Culturez-vous, c'est sur Transistor avec Audrey.
De retour au début des années 60 où Andy Warhol commence à véritablement imposer son style et sa vision de l'art. On le sait maintenant, le pop art s'appuie sur la culture populaire et les images distribuées en masse. Publicité, télévision, cinéma, supermarché, l'inspiration est partout. Alors, comment Warhol choisissait ses références? Si pour la soupe Campbell, il avait affirmé en avoir bu au déjeuner pendant 20 ans, écoutez plutôt pourquoi il s'est aussi tourné vers la bouteille de Coca-Cola.
Andy Warhol, what do you think made Coke what it is today?
Andy Warhol, à votre avis, qu'est-ce qui a fait du Coca-Cola ce qu'il est aujourd'hui?
Well, I think I made it because I drink so much of it.
C'est moi qui l'ai fait. J'en bois énormément. Je le peins. J'adore ça. Je gardais toutes mes bouteilles. Les vieilles sont les plus belles. Ce que le Coca-Cola a de mieux, c'est qu'il coûte pas cher. Des tas de gens différents peuvent boire du Coca-Cola. Le président peut en boire en regardant la télé, et moi je peux faire autant, au même moment. Ou ma mère peut boire du Coca-Cola devant la télé.
Dans chacune de ses œuvres, Warhol exprime une sorte de critique sociale. Celle de la société de surconsommation, bien sûr, avec ses images de produits et de stars en grande quantité, affichées partout et tout le temps, mais aussi politique, notamment avec ses œuvres Big Electric Chair ou Race Riot. Dans la première, le peintre met en image une chaise électrique sur fond de couleurs rouge et bleu et nous interroge directement sur la peine de mort en place aux États-Unis. Cette œuvre, comme beaucoup d'autres, aborde la thématique de la mort, thématique qu'on retrouvera en fait dans quasi toute l'œuvre de l'artiste. Pour Race Riot, Warhol prend une image de l'assaut des manifestants antiségrégationnistes durant les émeutes de 1963. On y voit un jeune manifestant noir se faire littéralement mordre et arracher le pantalon par le molosse d'un des policiers. Encore une fois, Warhol met en lumière les dysfonctionnements, la violence et les inégalités criantes des populations américaines. Déroutant pour les uns, fascinant pour les autres, l'art de Warhol interroge. Et si chacun a son opinion, l'émulsion autour de l'artiste est là. Il faut dire qu'Andy Warhol est un personnage atypique. De par son allure déjà. Au fil des années, il s'est créé un look unique et marquant. Perruque peroxydée, blanche, blonde ou grise, grosses lunettes et petits cols roulés noirs. Et cette dégaine, elle n'est pas anodine. Warhol voulait avoir une armure, un personnage derrière lequel il pourrait cacher ses angoisses, notamment vis-à-vis de son physique qu'il considérait comme ingrat. Gros problème de peau, calvitie précoce et léger strabisme, Warhol ne s'aime pas. Certains diront que c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'accroche tant à la beauté des stars et à l'image de perfection qu'elle renvoie. Même s'il est connu de tous et devient la personne invitée aux soirées mondaines, Warhol reste une personne introvertie, qui parle peu, surtout en interview, et qui cherchera toujours l'amour et la reconnaissance des autres. Et paradoxalement, s'il est de tous les dîners, lui ne reçoit jamais chez lui dans son hôtel particulier. Par contre, il organise des fêtes monumentales sur des jours entiers. Mais ça, il le fait à la Factory. Warhol a ouvert la Factory en 1964. Et pour l'époque, c'est un lieu un peu hybride et assez dingue. Et même si elle a connu plusieurs adresses, le principe de la factory, ou usine en français, est resté le même. L'idée, c'est de prendre un lieu très grand, type loft, et y faire entrer tous les artistes possibles et inimaginables. Peintres, sculpteurs, danseurs, vidéastes, chanteurs, performeurs, tout le monde est le bienvenu dans ce lieu devenu mythique. Car au-delà du simple atelier d'artiste à proprement parler, Warhol crée ici une bulle underground où toutes les populations, toutes les classes sociales se mélangent et évoluent ensemble. Dans cet espace aux murs argentés, les stars côtoient les camés, les anonymes, tout ça sous le regard d'Andy Warhol, chef de cette drôle de file et véritable roi d'une cour des miracles. Sur la Factory, Warhol dira « Ici, tu rentres en tant qu'inconnu et tu ressors en superstar ». À cette époque, Warhol continue de sortir des peintures sérigraphiées. Mais s'il est toujours à la base de la création et des idées, il délègue maintenant la partie technique à sa flopée d'assistants, ce qui lui permet de se plonger notamment dans la photo et la vidéo. Warhol produit en masse et le revendique, non sans énerver beaucoup de ses confrères et critiques d'art. Eux voient dans la qualité et la valeur d'une œuvre son caractère unique. Warhol, lui, assume totalement et se rêve en machine capable de sortir 4000 toiles en une journée. Pour lui, je cite, « industriel n'est pas un gros mot. L'artiste n'est pas un créateur, mais simplement un producteur. La quantité est la meilleure jauge en tout. » Warhol continue donc sa vie d'artiste productif et touche à tout et se lance même en tant que producteur d'un groupe naissant appelé le Velvet Underground. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Créé par Lou Reed et John Cale, le Velvet Underground est un pur produit de la Factory. Groupe de rock porté par la voix spectrale de la chanteuse Nico, le Velvet a connu un succès aussi puissant que fugace et reste aujourd'hui encore une référence en matière de rock underground. Tout va donc pour le mieux dans le petit monde d'Andy Warhol. Le Velvet cartonne, ses toiles et photos continuent de très très bien se vendre, ses films traversent les frontières et la Factory continue d'être the place to be pour le tout New York. Oui mais voilà, forcément quand c'est trop beau, on s'attend toujours à un problème. Pour Andy Warhol, il prendra la forme de l'écrivaine féministe radicale Valérie Solanas. Nous sommes en 1968, quand Valérie Solanas débarque à la Factory, arme à la main, et tire à trois reprises sur Warhol. Celui-ci est touché à la rate, au foie, à l'œsophage et au poumon. Emmené d'urgence à l'hôpital, il sera sauvé après 5 heures d'opération. Valérie Solanas, diagnostiquée comme schizophrène paranoïaque, était persuadée que Warhol avait trop de contrôle sur sa vie. Elle fut condamnée à 3 ans de prison. Après 2 mois à l'hôpital, Warhol rentre chez lui, mais plus rien n'est comme avant. La Factory ferme plus facilement ses portes et la sécurité se renforce. Sa dernière version déménage à Broadway en 1973. Et même si on veut garder l'idée et le concept, on se rend vite compte que la magie des premières années n'y est plus. Et si l'artiste continue de créer, ses œuvres sont encore plus marquées par le spectre de la mort. En parallèle, et en plus des peintures, photos et vidéos, Warhol se lance dans la presse et crée le magazine Interview, consacré aux arts et aux célébrités. Il débarque aussi sur MTV avec une émission appelée 15 Minutes, qui recevra de nombreux musiciens et chanteuses comme les Ramones, Debbie Harry ou encore Grace Jones. En 1987, Andy Warhol doit subir une opération liée à la vésicule biliaire. Terrorisé par les soins et les hôpitaux, Warhol n'a pas arrêté de reporter cette intervention. Résigné, il se fait tout de même opérer le 21 février 1987 au New York University Hospital. Le lendemain, à 6h31, Andy Warhol décédera d'une attaque cardiaque suite à des complications liées à l'opération. Enterré dans sa ville natale de Pittsburgh, Andy Warhol, le pape du pop art, aura marqué à tout jamais le monde de l'art et la façon de voir notre monde. Obsédé par l'argent et la célébrité, l'artiste aura toujours semé le doute quant à son personnage. Pour ou contre la consommation ? Ironie ou critique directe de la société, timidité ou snobisme, le mystère Warhol reste intact. Et voilà, c'est déjà le moment de se dire au revoir, ou plutôt à bientôt, car je vous retrouve très vite pour une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture. Et en attendant, je vous fais des bisous, des bécos, et vous dis à tantôt. Aïe !
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'y a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.